Ça fait quelque temps maintenant qu'on chemine dans le premier épître de Pierre, et on va continuer ce matin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un peu le fil rouge tout au long de ce premier épître, c'était la vie des enfants de Dieu au milieu d'un monde hostile. La vie des chrétiens au milieu d'un monde hostile. Un monde qui nous pousse toujours à nous éloigner de Christ, dans tous les domaines de la vie, alors que nous devons justement avancer à contre-courant. Et c'était les propos de Matthieu la semaine dernière. Et ceci, nous l'avons déjà abordé dans différents domaines, comme la soumission volontaire aux autorités, aux supérieurs, mais aussi dans le domaine de la vie à deux, la vie commune, mari, femme, dans notre attitude vis-à-vis de ceux qui nous font souffrir, qui nous injurient, qui nous font du mal, qui ne veulent pas forcément du bien. Et Pierre abordera encore d'autres domaines à la fin de cet épître et dans le suivant, comme être au service des autres, sans se plaindre, sans attendre en retour, supporter les épreuves, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez été attentif à ça, mais on peut remarquer qu'il y a une phrase qui parcourt un peu l'ensemble des chapitres traitant de cette vie à contre-courant et qui revient à plusieurs reprises. Au chapitre 2, verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Chapitre 2, verset 15, juste quelques versets après, « Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. » Chapitre 3, fin du verset 15-16. « Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. » Chapitre 4, verset 4-5. « Ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Cette bonne conduite qui va à l'encontre de tout ce qu'on peut entendre et voir dans ce monde est un peu aussi en même temps une arme défensive contre toutes les attaques du monde. Cette bonne conduite est la mise en pratique de notre foi. C'est un acte d'obéissance à Jésus qui est le nouveau Seigneur de notre vie. Mais c'est aussi une arme qui va servir à confondre ceux du monde qui s'opposent à nous, nous font souffrir, nous calomnie injustement. Oui, vivre la vie de chrétien dans ce monde, c'est pas facile. Car c'est pas naturel pour nous d'avoir cette bonne conduite. Mais en même temps, lorsqu'on la pratique, avec l'aide du Seigneur, c'est cette même bonne conduite qui va témoigner et confondre nos adversaires. Car c'est à Jésus qu'ils devront rendre des comptes. Pierre a conscience que toutes les instructions qu'il donne pour vivre cette vie de chrétien dans ce monde, peuvent sembler lourdes parfois, dures, peut-être même impossibles des fois pour certains, à certains moments. Et comme il l'a déjà fait à la fin du chapitre 2, pour ne pas que nous nous décourageions devant l'ampleur de l'objectif à atteindre, il rappelle ici, dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, à la fin du chapitre 3, quelque chose de tellement important et encourageant pour nous. Lisons donc le texte du jour, 1 Pierre 3, versets 18 à 22. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Prions. Oui Seigneur, merci pour ta parole si riche, si qui nous fait tellement du bien, cette parole qui est vivante, qui agit aussi en nous, Seigneur, et que ce matin encore, Seigneur, tu veux nous encourager, tu veux nous donner ta propre force, Seigneur, afin que nous puissions vivre justement cette vie pas toujours facile dans un monde qui t'est hostile à toi et à nous. Oui, Seigneur, que nous puissions ce matin grandir encore avec toi, que nous puissions être encouragés à continuer, à persévérer dans la marche, dans le chemin qui conduit à toi. En ton nom, Seigneur. Amen. Je me rappelle un de mes premiers travaux que j'ai eu lorsque j'étais étudiant à la faculté, c'était livreur de pizza, préparateur aussi de commandes, pour une enseigne bien connue, que je citerai pas, on n'a pas le droit de citer des marques. Alors le travail n'est pas le travail le plus foufou, comme diraient les jeunes, que j'ai fait, ni forcément le plus intéressant ou le plus valorisant, mais voilà, c'était un travail que j'ai pu faire pendant quelques années. Et ce travail, ben, il faut le faire, quelles que soient les conditions, hein, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige. Vous travaillez quand les autres mangent, se réjouissent, passent du bon temps. Les horaires sont pas vraiment, sont vraiment spéciaux justement, tous les jours, 7 jours sur 7, et j'en passe, etc. À Strasbourg où je travaillais, il y avait plusieurs magasins de cette même enseigne, et c'était toujours un peu la concurrence entre les différents magasins. Et sur tous les magasins de Strasbourg, celui où je travaillais était celui qui avait les meilleurs résultats et où les employés voulaient tous venir travailler. Je vais vous dire pourquoi. Alors pas parce que j'étais là-bas, non, mais à cause de son manager, qui est d'ailleurs resté un bon ami. En effet, contrairement à tous les autres managers de l'enseigne, c'était le seul à montrer l'exemple. Il s'investissait personnellement dans toutes les tâches du magasin, servant de modèle, d'exemple pour tous. Lorsqu'il voyait qu'il manquait de livreurs et que des pizzas n'allaient pas être livrées, il prenait un scooter et il allait livrer. Lorsque les gens attendaient au téléphone pour prendre leurs commandes, il décrochait le téléphone, il prenait les commandes. Lorsqu'à la cuisine, il ne suivait pas, il préparait les pizzas. Et même lorsqu'il fallait faire la plonge, eh bien il y allait parce que c'était nécessaire pour que le magasin puisse fonctionner correctement. Il a pour beaucoup d'employés servi ainsi d'exemple. Lorsque certains soirs, notamment les soirs de matchs de Coupe du Monde, c'était dur, on était tous dans le rouge, ça sonnait partout, il fallait courir dans tous les sens, livrer dans toute la ville, eh bien son attitude nous encourageait et à nous donner encore plus, à rester motivés pour satisfaire le client et à finir la soirée ensemble. Il gagnait aussi ainsi le respect et lorsqu'il disait quelque chose, les employés s'exécutaient, car tout le monde savait qu'il exigeait toujours ce qui était le mieux. Être un exemple. Le titre du passage que je vous ai lu dans certaines Bibles, dans pas mal de Bibles d'ailleurs, s'intitule « L'exemple par excellence ». Pierre, dans le début de notre texte, est en train de nous rappeler qui est notre patron et que lui-même, Jésus, cet exemple par excellence, de la vie chrétienne dans notre monde hostile, eh bien, lui a subi sans jamais pécher, a tout subi sans jamais pécher. Lui a tout souffert, et ce, jusqu'à la mort, pour nous. Pierre, comme je l'ai déjà dit avant, a déjà cité l'exemple du Christ à la fin du chapitre 2. Et je vous relis le passage, 1 Pierre 2, 21-24. Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Si en si peu de temps, sur deux chapitres, fin du chapitre 2, fin du chapitre 3, ici aujourd'hui, Pierre rappelle cette vérité de l'exemple du Christ, de son œuvre à la croix, sa mort, sa résurrection, c'est que c'est important, très important de nous le rappeler à nous aussi. Surtout dans le contexte d'une vie chrétienne dans un environnement hostile, c'était le cas des chrétiens auxquels Pierre s'adressait, et c'est honnêtement encore le cas pour nous aujourd'hui. Pierre, dans le texte d'aujourd'hui, dans le premier verset, nous rappelle trois aspects de la mort du Christ à la croix. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Première raison, la raison de sa mort, justement, pour les péchés. Les bénéficiaires de sa mort, des coupables, nous, chacun. La valeur de son sacrifice, une fois pour toutes. Waouh ! Génial ! Quel aspect est-ce que ça met en valeur, ça met en évidence sa mort ? La grâce. Encore une fois, la grâce. Je ne mérite rien, moi, le coupable, mais Jésus, par amour, m'a fait la grâce de mourir à ma place. Pour mes péchés, une fois pour toutes. Je n'ai rien à accomplir pour être sauvé. Ça ne dépend pas de moi, et heureusement. N'est-ce pas merveilleux ? Encore une fois, Pierre ne veut pas que ses interlocuteurs soient découragés. En nous montrant l'objectif à atteindre, en nous rappelant comment nous devons nous comporter dans ce monde hostile. Cet objectif, comme dit, peut paraître des fois super haut, quoi. On se dit, je vais pas y arriver. Et s'il y en a bien un qui se réjouit lorsque nous sommes découragés, en proie au doute, c'est Satan, qui veut justement nous faire croire que c'est impossible. Voilà pourquoi il est tellement important pour nous tous les jours de nous rappeler l'exemple par excellence de Jésus, car lui a subi bien plus que tout ce que nous subirons, comme souffrance, comme épreuve. Et lui est allé au bout, sans chuter, en sortant vainqueur. Son exemple parfait doit nous donner envie de continuer, de persévérer dans la pratique d'une bonne conduite, malgré les circonstances. Première question, et je la pose aussi évidemment à moi-même. Est-ce que je me rappelle assez souvent de l'exemple par excellence qu'est Jésus dans ma vie de chrétien, dans un monde hostile ? Comme je l'ai déjà partagé dans mon dernier message, est-ce que je me pose toujours la question qu'aurait fait Jésus à ma place lorsque je fais quelque chose ? D'autre part, comment est-ce que je peux prendre exemple sur lui ? En apprenant à le connaître, toujours davantage. Et quel est le meilleur moyen d'apprendre à le connaître ? Quel est le meilleur moyen d'apprendre à le connaître ? La lecture, la Bible, sa parole. Alors question numéro 2, est-ce que je prends suffisamment le temps dans la lecture de sa parole pour apprendre à connaître Jésus et prendre exemple sur lui ? Et dans ce domaine, nous pouvons avec Matthieu et Josué parler des heures, vous faire des beaux messages, vous encourager, organiser des formations, inviter des orateurs, faire des séminaires. Mais nous ne pourrons jamais faire ça à votre place. La relation que vous entretenez avec Jésus, il n'y a que vous qui puissiez la faire évoluer. Si nous voulons voir notre vie d'église progresser, il faut que notre relation personnelle, chacun, individuellement, avec Jésus progresse. Que nous soyons tous toujours plus proches, plus dans l'intimité de notre exemple par excellence, Jésus. Si individuellement nous ne progressons pas, l'Église ne progressera pas. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Alors, où en es-tu dans ta relation personnelle avec Jésus, ton Sauveur ? Dans ce texte, il y a une deuxième partie. Et Pierre va partir de cet exemple de Christ pour aborder un autre sujet, qui exprime publiquement justement cette foi en Christ. Cet autre sujet, c'est le baptême. Le baptême, l'expression de notre foi. Pierre arrive sur le sujet en partant de l'œuvre de l'Esprit. En effet, Jésus n'est pas resté mort, mais a été ramené à la vie par l'Esprit. Justement, cette puissance qui habite tout nouvellement les chrétiens auxquels Pierre s'adresse. En donnant ensuite l'exemple de Noé, Pierre rappelle ici que l'Esprit existait depuis toujours et qu'il n'était pas inactif jusqu'à sa venue dans chaque chrétien. C'est par ce même Esprit puissant que Jésus, par la bouche de Noé, avait prêché aux hommes mais ils sont restés rebelles à Dieu. Pendant tout le temps de la construction de l'arche, quasiment 100 ans, Dieu est resté patient envers les hommes, leur laissant la chance de se repentir, de revenir à lui, de lui faire confiance, comme Noé et les 7 autres personnes qui l'accompagnaient. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dieu, pendant le temps où nous sommes sur cette terre, est patient. Il appelle et laisse à chacun la possibilité de se réconcilier avec lui et de revenir à lui. C'est l'exemple de Noé du déluge qui est donc pris ici en exemple du baptême. Pierre dit que ces événements préfiguraient le baptême. En quoi ? Où est-ce qu'il veut en venir, Pierre ? En fait, pour comprendre ce que Pierre était en train de leur dire au sujet du baptême, il faut aller à la conclusion de son explication, de sa comparaison. Que dit Pierre au verset 21 en parlant du baptême ? Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. En d'autres termes, il est en train de dénoncer le fait que le baptême était parfois pris comme un rite purificateur, quelque chose d'un peu magique qui laverait les impuretés du corps. Or, nous savons très bien que le baptême, l'immersion dans l'eau et en ressortir, est l'image, c'est un symbole de notre ancienne nature plongée, polluée par le péché, qui est morte sur la croix par la mort de Jésus et qui ressort comme une nouvelle créature, purifiée, lavée, remplie de l'Esprit. C'est bien un symbole, car dans le fond, qu'est-ce qui sauve ? C'est le témoignage de Jésus à nous, individuellement, par l'Esprit justement, et qui conduit à avoir foi en lui. C'est un engagement envers Dieu. Seule la foi sauve. Le baptême vient ensuite. Soit on entend ce témoignage de Jésus par l'Esprit, et comme Noé et les 7 autres, on s'engage envers Dieu. On décide de lui faire confiance. Et Noé a fait confiance à Dieu concernant la construction de l'arche, sans savoir si ce déluge allait vraiment avoir lieu, comment ça allait se passer, qu'est-ce que c'était quoi la suite. Si on fait confiance à Jésus, si on fait confiance à cet appel en nous, on est sauvé. Soit, comme tous les contemporains de Noé, on ne prête pas attention. On est rebelle à ce témoignage de Jésus par l'Esprit. Et on se dirige vers le châtiment, la mort loin de Dieu. Il n'y a que 2 possibilités. C'était le cas du temps de Noé, c'est encore le cas aujourd'hui. Que dit Pierre, justement, au début du verset 21 ? C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. C'est pareil. Il est en train de dire, c'est pareil, rien n'a changé. Jésus témoigne aux hommes par l'Esprit, du temps de Noé. Et lui plus 7 autres ont écouté, ont cru, ont eu foi et ont été sauvés. Aujourd'hui, dit Pierre, c'est pareil. Jésus parle par le même esprit, en nous. Et si on écoute, on a foi en lui, on est sauvé. Pierre est en train de mettre en valeur l'importance capitale de l'esprit, par lequel Jésus témoigne en nous de ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est l'Esprit qui nous pousse à s'engager pour Dieu, à avoir foi envers lui, à nous convertir. Et ce n'est pas le baptême. Pierre remet les choses en place, parce que ça devait peut-être être déformé par certains. Par cet exemple, par cette comparaison, le baptême ne purifie pas, ne sauve pas. Le baptême, c'est l'expression de notre foi, qui découle de l'œuvre de l'Esprit, qui témoigne en nous de l'œuvre de Jésus. Alors si le baptême ne sauve pas, quelle est sa signification ? On peut rappeler ici qu'avec la Sainte Cène, c'est un des 2 actes symboliques laissés par Jésus à ses disciples et dont il demande d'être pratiqué jusqu'à ce qu'il revienne. Quelle est la triple signification du baptême ? On devrait demander à ceux qui sont en préparation baptême de répondre à cette question-là. La triple signification du baptême, on le reverra bientôt en septembre, ils nous en parleront lorsque ce sera le moment. Mais ici simplement, la triple signification, c'est le témoignage public aux hommes, mais aussi aux puissances qui sont dans le ciel, de notre foi justement en Jésus. Deuxièmement, c'est le témoignage public de notre union avec Jésus dans sa mort et sa résurrection. Et enfin, c'est le témoignage public de notre appartenance à l'Église, au corps du Christ, à l'Église universelle, c'est-à-dire l'ensemble des croyants. Question. Toi qui entends ce témoignage de Jésus en toi, qui sens que tu es poussé à faire confiance en ce Dieu, qui s'est donné gratuitement à ta place, pour tes fautes, viens à lui aujourd'hui. N'attends pas, ne doute pas. Et les responsables, nous nous tenons à disposition pour passer un temps avec toi, nous réjouir avec toi et prier avec toi. Autre question, si le baptême, c'est l'expression de notre foi, toi qui as répondu au témoignage de Jésus par l'Esprit, toi qui t'es donc engagé pour Dieu, qui a foi en Jésus, qu'est-ce que tu attends pour te faire baptiser? Je ne sais pas pourquoi, et c'était mon cas aussi pendant quelques années après ma conversion, je n'osais pas me faire baptiser. Peur de ne pas être assez bien, pas essayer d'aller à hauteur, pas encore un assez bon chrétien. Mais c'est quoi ces questions? Et c'est peut-être le cas pour certains parmi vous de se dire « Ouais, mais je suis pas prêt. » Prêt de quoi? Tu as donné ta vie au Seigneur. Si tu as foi en Jésus, en son œuvre, que tu t'es engagé pour Dieu, tu n'as aucune raison d'attendre. Le seul, encore une fois, à qui ça fait plaisir, qu'on doute tellement pour le baptême et qu'on ne témoigne pas justement publiquement, c'est Satan. Dans les passages qui parlent du baptême, les hommes, les femmes se convertissaient et se faisaient baptiser. Tout de suite, il n'est jamais question d'une période d'attente quelconque avant de se faire baptiser. Alors nous avons, et vous le savez, des préparations au baptême justement, régulièrement, qui permettent individuellement de discuter autour de toutes ces questions. Si vous posez la question, venez voir un des anciens. J'irai pas plus loin aujourd'hui. Et ma conclusion, je vais simplement reprendre les quatre questions que je vous ai posées. La première, est-ce que dans ma vie de chrétien, dans un monde hostile, je me rappelle assez souvent de l'exemple par excellence qu'est Jésus? Et ce que lui a enduré fait pour moi pour me sauver? Deuxièmement, pour faire les bonnes actions que Jésus me demande, est-ce que je prends suffisamment le temps dans la lecture, l'étude de sa parole, pour le connaître toujours mieux? Troisième question, si tu entends le témoignage de Jésus dans ton cœur, n'attends pas. Réponds à son appel, fais ce pas de foi et tu deviendras une nouvelle création en Jésus. Quatrièmement, si tu as fait ce pas de foi, que tu t'es engagé pour Dieu, n'attends pas, fais-toi baptiser. Et pour finir, comme Pierre le rappelle, je lirai simplement la dernière phrase de notre texte. Une merveilleuse phrase. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Amen.